Réplique sur Racine avec Nathalie Azoulay et Jean-Michel Delacomté. Une femme aime éperdument un homme. Cet homme, soudain, la quitte et revient vers l'épouse qu'il a d'abord quittée pour elle. Elle est dévastée. Pour mettre des mots sur son chagrin, elle relit les tragédies de Racine et plus particulièrement Bérénice. Trouvant toujours un vers qui formule miraculeusement ses humeurs, la colère, la déréliction, la catatonie, elle en vient à se demander qui au fond était ce type qui a si bien su décrire l'amour des femmes. Et de fil en aiguille, cette amante délaissée fait revivre sous nos yeux Jean Racine. Tel est, grossièrement résumé, l'argument du dernier roman de Nathalie Azoulay, « Titus n'aimait pas Bérénice ». Avec Nathalie Azoulay elle-même et avec Jean-Michel Delacomté, auteur notamment de « Racine en majesté », nous parlerons de la vie et de l'œuvre du plus grand de nos classiques. Et d'abord, votre titre, Nathalie Azoulay. Suétone avait écrit « Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même à ce qu'on croyait lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle. Dimisit invitus invitam, dès les premiers jours de son empire. Ce que la Bérénice de Racine traduit avec une admirable économie de moyens, « Je l'aime, je le fuis, Titus même, il me quitte. » Et vous, Nathalie Azoulay, vous ne vous en laissez pas compter. Vous affichez d'entrée de jeu cette insolente certitude. Titus n'aimait pas Bérénice. Qu'est-ce qui vous autorise à contredire Suétone, à contredire Racine et à défaire ainsi le nœud même de la tragédie?
Sans doute je contredis Suétone, mais je ne pense pas contredire complètement Racine. Et c'est vrai que mon titre est un peu insolent, voire brutal. En tout cas, il n'est pas du tout romantique. C'est vrai que dans l'inconscient collectif ou dans la tête de beaucoup de gens, on a l'habitude de penser que Titus et Bérénice égale Roméo et Juliette, c'est-à-dire deux amants qui s'aiment également et qui ont des obstacles qui vont les empêcher de se rapprocher et de s'unir. Or, je crois que la tragédie de Racine, Bérénice, ne raconte pas du tout ces obstacles-là, mais qu'elle met en scène, en fait, la décision de Titus qui est d'emblée de quitter Bérénice et l'annonce de cette décision. Alors, c'est vrai qu'avant moi, Roland Barthes avait eu cette intuition qui est en fait une contre-intuition et que je lui ai emboîté le pas et qu'en fait, à la lecture et à la relecture de la tragédie de Racine, je n'ai fait que trouver de la confirmation à cette contre-intuition, dès l'acte 2.
Une confirmation, d'ailleurs, que narratrice reprend à son compte, puisque elle se fait appeler en quelque sorte dans le roman Bérénice, celui qu'elle aime c'est Titus, et il revient, il ne choisit pas Rome, c'est-à-dire la raison d'État, mais il choisit une autre femme, sa femme légitime qui est Roma. Votre Bérénice en conclut que son Titus ne l'aimait pas non plus puisqu'il y choisit Roma et vous créez ainsi une sorte d'analogie entre la Rome de l'empereur et la Roma de l'amant de cette narratrice. C'est bien cela?
C'est tout à fait cela. Et en fait, l'analogie, en effet, il y a d'un côté Rome et d'un côté Bérénice, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la raison d'État et l'amour. Or, dans l'histoire contemporaine qui lance ce récit, il y a en effet deux femmes. Mais je ne pense pas que ce soit deux femmes qui soient à égalité, qui soient au même niveau. Je pense que d'un côté, il y a le temps court de l'amour, qui est incarné par la maîtresse, par Bérénice. Et de l'autre côté, il y a le temps long de l'épouse, qui est incarné par Romain.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Est-ce que vous reprendriez à votre compte ce titre insolent? Titus n'aimait pas Bérénice. Jean-Michel Delacomté.
J'aime bien l'insolence du titre. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation donnée. Je ne pense pas du tout que dans Racine et dans Bérénice, et dans Racine en général d'ailleurs, l'amour soit le temps court. Je pense que c'est le temps long. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez passionnant dans le théâtre de Racine et dans ses tragédies, c'est qu'il distingue très fortement la passion de Néron, qui est la passion soudaine d'une nuit où il arrache Junie, et d'autre part le temps long de l'amour. Ce sont les 5 ans de cet amour qui aurait pu continuer jusqu'au bout, parce que je pense pas que Rome soit tout à fait Roma. C'est-à-dire, je pense pas que ce soit l'épouse. Rome, si j'ose dire, c'est la fille du père de Vespasien. C'est pas du tout la même chose. On pourrait continuer, quoi. Hein. Donc, je suis pas tout à fait d'accord.
Mais alors, il me semble que votre titre, Titus n'aimait pas Bérénice, est éminemment romantique, Nathalie Azoulay. Là, j'ai sous les yeux le livre d'Henri Gouillet, Le théâtre et l'existence. Il écrit « Au temps de Louis XIV, le public se demande si Titus saura se conduire en chef d'État. Au XXe siècle, il se demande s'il aura le courage de mettre son amour au-dessus de tout. » Parce que, pour nous, l'amour est à la fois le plus puissant des sentiments et la valeur suprême. Et précisément, nous avons du mal à concevoir qu'il puisse exister d'autres aspirations, d'autres considérations, d'autres intensités aussi fortes que l'amour. Donc, si il la quitte, ça ne peut être pour nous, pour l'homo sentimentaliste que nous sommes devenus, que parce qu'il ne l'aime pas. Il me semble qu'il l'aime, mais que Rome ne peut pas supporter une reine, il la sacrifie en effet à la raison d'État. Et j'ai pensé aussi, en lisant votre livre, ce titre, et en écoutant la justification que vous en donnez, à un événement qui s'est produit il y a 11 ans maintenant, la célébration du 60e anniversaire du débarquement. C'était en Normandie, devant les vétérans, etc. Et que s'est-il passé? Patricia Cass a chanté l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque je t'aime, je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. C'est le débarquement. Des gens, effectivement, ont mis en péril leur amour, ont oublié leur amour pour autre chose à un moment donné. On ne trouve rien de mieux que l'hymne à l'amour pour célébrer le débarquement, parce que précisément, on a l'impression que tout notre territoire mental est occupé par l'amour. Il n'y a que cela aujourd'hui. Au temps de Louis XIV, existait quelque chose comme la raison d'État. En notre temps, il peut exister les exigences de l'engagement, mais non. L'homo sentimentaliste ne veut pas en entendre parler. S'il Titus quitte Bérénice alors qu'il était Médèle, ça ne peut être que parce qu'il ne l'aime pas. Il me semble qu'il y a là un appauvrissement, si vous voulez, de la vision, précisément par une époque qui n'en a que pour l'amour et peut-être aussi que pour le désir.
Là où je vous rejoins, c'est qu'en disant Titus n'aimait pas Bérénice, je ne dis pas forcément qu'il a tort et je ne dis pas forcément qu'il fait le mauvais choix. Il n'y a pas de jugement dans ce titre, il y a juste l'envie de poser une phrase peut-être insolente, voire désinvolte, sur ce qui, à mes yeux, est une espèce de mythe. D'ailleurs, dans sa préface à Bérénice, Racine dit qu'il veut écrire une tragédie sur rien. Et je crois que le rien est plus fort entre la décision et l'annonce de cette décision qu'entre deux amours ou qu'entre deux choix.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des situations où on est obligé, où on se croit obligé de sacrifier un amour qui vous étreint, à autre chose, à un moment donné de son histoire? Et n'est-ce pas cela l'extrême beauté d'une pièce très étrange dans l'œuvre de Racine, puisque précisément, c'est la seule œuvre de Racine où il y a réciprocité.
Que vous dites.
Ils aiment et ils s'aiment. Ils s'aiment, donc rien ne doit faire obstacle à leur bonheur, sauf qu'il existe autre chose que l'amour. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Louis XIV, qui a répudié, comme on sait, Marie Mancini, alors que jeune homme, il voulait l'épouser, Jean-Michel de la Comté.
Moi, je trouve que Bérénice doit être, sur ce plan, doit être mise en regard avec Britannicus, les deux pièces romaines. Ce sont des pièces, selon moi, ce sont des pièces essentiellement, enfin, largement politiques. Et, relativement à ce que vous venez, Alain Finkielkraut, aujourd'hui, je crois que dans l'interprétation romantique, qui est belle d'ailleurs, que vous donnez. Hein. Mais dans cette interprétation, je pense qu'elle traduit, et c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose, un recul du politique, une pensée du politique autre, de telle sorte que aujourd'hui, la pensée politique ou l'investissement politique n'est plus tellement compris.
Oui.
Ce qui fait qu'on ne comprend pas tellement. Je dis ça parce que Titus dit quelque chose de très fort quand même, qu'aujourd'hui on ne comprendrait peut-être plus tellement. C'est de dire « je suis redevable à mon père ». C'est la mort de Vespasien. Il y a la scène, j'insiste pas trop, mais il y a cette scène centrale, la nuit de l'apothéose, lorsque, c'est le huitième jour, il prend sa décision, Titus. L'apothéose, quand son père Vespasien remonte au ciel, hein, comme Dieu parmi les dieux. Il change, Titus. Il le dit.
Il doit s'amender, de toute façon, de toute sa jeunesse un peu.
Oui, en plus, vous avez raison, sur le plan personnel. Mais sur le plan symbolique, il change, il se métamorphose. C'est ça, un homme d'État. Aujourd'hui, ça ne se comprend plus guère.
Voilà. Non, alors, ça devrait se comprendre parce que l'abdication du duc de Windsor, qui a choisi l'amour, on s'en souvient, dans les années 30, c'est pas un souvenir très glorieux. Donc on devrait se dire qu'à certains moments, peut-être est-il bon de choisir autre chose que l'amour, mais quand on aime justement. Parce que, encore une fois, Nathalie Azoulay, s'il ne l'aime pas, bah, ça n'a plus d'intérêt. Je vois pas où est la tragédie.
Je ne dis pas qu'il ne l'aime pas du tout. Je ne dis pas qu'il ne l'aime pas du tout, je dis qu'il ne la préfère pas.
Ah, ça c'est vrai.
Ah donc, oui, il ne la préfère pas.
Voilà.
C'est vrai.
Mais en même temps, il est anéanti par son choix.
Je ne sais pas s'il est anéanti. Il dit qu'il est anéanti, mais je pense qu'il y a un théâtre de l'anéantissement de Titus qui est aussi très, très, très déployé par Racine. Ce que je voudrais dire d'autre sur mon titre, c'est que c'est un titre aussi qui va contre, enfin, qui va dans le sens du traitement du chagrin d'amour qui est quand même à l'origine de ce, enfin, en tout cas, à l'ouverture de ce roman.
Oui.
Puisque dans le chagrin d'amour, il y a une grande part de déni en général. C'est-à-dire, on refuse d'imaginer qu'on n'a pas été préféré, on refuse de penser que l'autre a choisi quelqu'un d'autre ou autre chose. Et donc, il y a cette part de déni qu'il faut secouer. Et c'est vrai que dans l'insolence de mon titre, il y a aussi cette brutalité qui consiste à prendre quelqu'un par les épaules et à lui dire « bon, ça suffit maintenant, il ne t'aimait pas ». Donc peut-être avec un peu d'abus et avec un peu d'exagération, c'est peut-être de là que viennent vos réactions. Mais ce que je constate, c'est que j'ai deux hommes contre moi.
Mais vous avez un homme avec vous, puisque vous avez Barthes.
Donc, j'ai un homme avec moi.
Ne nous faites pas ce coup-là, c'est vous.
Non, 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 c'est injuste.
Vous avez Barthes avec vous.
Qui n'est pas très, très catégorique, qui émet une hypothèse.
Oui, enfin, il émet une hypothèse, mais il l'émet. C'est Bérénice qui désire Titus. Titus n'est lié à Bérénice que par l'habitude. C'est quand même une phrase très assertive.
Mais il ne dit pas que ça.
Selon moi, Titus aime tellement Bérénice qu'il ne veut pas la garder auprès de lui, à partir du moment où il assume et accomplit son devoir d'empereur. Il lui dit, elle dit, mais je peux rester près de vous, même si on se marie pas.
Comme
en
une
gros.
Concubine.
Hein, oui. Comme une concubine. Il dit, non. Parce que ma tâche, l'accomplissement de mon devoir d'empereur, serait rendu impossible par le fait que j'aurais toujours envie de vous voir tellement je vous aime.
Mm-hmm.
Il l'aime, c'est pour ça qu'il la quitte.
D'accord, mais il y a Paulin...
Pour moi, non, je plaisante un peu, vous voyez, mais c'est ça que je veux dire.
Mais il y a Paulin, sans arrêt, qui lui brandit un peu la raison d'État, mais qui brandit aussi beaucoup le désir de gloire, hein, et la gloire que va rapporter ce choix à Titus. Donc il n'y a pas non plus que la raison d'État et l'austérité d'une décision dans ce choix de Titus. Et Paulin, qui ne cesse de lui dire tout le temps, regardez plus loin.
Oui.
C'est pour ça que je reviens au temps court de l'amour et au temps long du pouvoir.
Oui, mais là, il y a une contradiction. Là, nous sommes d'accord, Nathalie Azoulay, entre ce qu'exige le pouvoir et les demandes de l'amour. Le pouvoir, en l'occurrence, en effet, Paulin lui rappelle que Rome ne supporterait pas d'avoir une reine comme femme de l'empereur. Ce serait un casus belli pour Rome. Il risquerait de se heurter à une révolte peut-être. Bon, Rome deviendrait ingouvernable et Titus en prend conscience. D'où cette décision, mais qui, vous en conviendrez, n'a de sens que si elle est douloureuse. Or, pour Barthes, elle n'est pas douloureuse. Barthes dit, il cherche tout simplement le moyen de se débarrasser de Bérénice. Alors ma question, est-ce que votre narratrice, est-ce que c'est pas elle qui a besoin de penser que Titus n'aime pas Bérénice, précisément pour se défaire un peu, pour essayer de se défaire de sa souffrance?
Je crois qu'en effet, ce titre est en fait la conclusion à laquelle elle parvient. C'est-à-dire que après force, tentative d'auto-persuasion, détour, construction, etc., je pense qu'elle arrive à cette idée qu'en fait, il ne l'aimait pas. Et sans doute, cette idée est-elle salutaire pour qu'elle sorte enfin de cette déréliction par laquelle elle entre dans le récit.
Simplement, elle lit Racine, elle lit Bérénice aussi parce qu'il met sur l'amour des mots, au fond, que personne n'a mis peut-être avant lui ni après lui. « Pour jamais, à Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?» Ce sont des vers absolument magnifiques, plus beaux vers même de la poésie française. Or, j'ai eu une autre surprise, mais cette fois, Jean-Michel de la Comté, en lisant « Racine en majesté », votre livre, c'est que vous dites tout simplement que Phèdre et Bérénice ne touchent plus personne à l'exception de quelques cas étranges. Figurant cette fois avec Nathalie Azoulay dans ces cas étranges, je m'étonne de votre insensibilité à cette extraordinaire poésie amoureuse.
D'abord, je suis peut-être un monstre.
Non, c'est nous les monstres, les cas étranges.
Ah, non, oui. Mais dites... Non, ce que je crois, je veux dire... D'abord, c'est peut-être un peu provocateur, d'une certaine façon, comme votre titre.
Hein. Une provocation c'est... l'autre.
Oui, mais je crois qu'il y a autre chose. J'ai relu, bien sûr, Bérénice de près. Alors, je dirais pas tout à fait ça de Phèdre, aujourd'hui. De Bérénice, je maintiens. Largement, mais pas complètement. Je veux dire, par là même, il y a un côté qu'on a reproché d'ailleurs à Racine, ce côté, c'est un petit peu cupidon, ce roman pastoral. Il y a quand même quelques vers dans Bérénice qui sont un peu, un petit peu difficiles d'écouter, à écouter. Ou par exemple, vous voyez, lorsque Bérénice est trempée de pleurs et que Titus, c'est lui qui le dit, qu'il essuie ses yeux avec tout ça, c'est un peu forcé, je dirais. Mais le plus important à mes yeux, ce que je voulais dire au fond, c'est que d'ailleurs c'est ce que je dis dans ce livre sur Racine que j'écris maintenant il y a quand même pas mal de temps, je ne sais pas si je dirais aujourd'hui la même chose tout à fait, c'est que j'insistais sur la portée politique de cette pièce-là, de Bérénice. Et puis pour le dire d'un mot, je crois, et aujourd'hui encore d'ailleurs, que toute la pièce, ou l'essentiel de la pièce, tend à la dernière scène qui est sublime. C'est comme ça que je lis la pièce aujourd'hui. Donc ensuite, avant cette dernière pièce, je trouve qu'il y a des... Bon, c'est une longue déploration. Ça peut être émouvant. Moi, ça ne me touche pas beaucoup. Je trouve que il y a trop de larmes, il y a trop de pleurs. Je sais qu'on pleurait, bien sûr, autour de Louis XIV. Lui-même était un grand pleureur, si j'ose dire. Moi, ça me touche plus tellement, ça.
Et il pouvait pleurer parce qu'encore une fois, ça lui rappelle sa propre vie. Joël Cornette, dans La mort de Louis XIV, en parle très bien. Il avait noué une idylle avec Marie Mancini, nièce de Mazarin. Il veut l'épouser tellement il est fasciné par elle. Et c'est Mazarin qui l'alerte.
Absolument.
Souvenez-vous, je vous en conjure, de ce que j'ai eu l'honneur de vous dire plusieurs fois lorsque vous m'avez demandé le chemin qu'il fallait tenir pour être un grand roi, c'est-à-dire qu'il fallait commencer par faire les derniers efforts afin de n'être dominé d'aucune passion. Et donc, il choisit, pour des raisons politiques, Marie-Thérèse d'Autriche. Celle-ci supplante la spirituelle Marie Mancini. Et c'est Marie Mancini qui dit « Ah, sire, vous êtes roi et je pars ».
Absolument.
Donc, il pouvait verser des larmes sur lui-même,
absolument.
Là, Louis le Grand.
Hein. Moi, j'étais pas roi, donc j'avais du mal à me mettre à cette place. Non, mais vous avez tout à fait raison, bien sûr.
Pour jamais, quand même.
Oui.
Pour jamais.
Ces
mots cruels sont affreux quand même, ça, franchement.
Ce que je veux dire, non, mais dans cette pièce. Mais on lui reprochait déjà. Je veux dire, un certain nombre, dont Madame de Sévigné, préférait Corneille parce qu'elle trouvait que Racine était une dame trop tendre.
Un
auteur pour dame. Ça n'empêche pas que dans Bérénice, et fortiori dans Phèdre, il y a des passages merveilleux. Simplement, je termine là-dessus. Pour ma part, je préfère de loin Britannicus. Sauf la dernière scène de Bérénice que je trouve, et qui est d'ailleurs absolument sublime. Je trouve que toute la pièce tend vers ça. Voilà. Et là, il n'y a plus de pleurs. Au contraire, il y a ce que je crois vrai, en l'occurrence, et là on n'est pas tout à fait d'accord, mais j'aime bien votre interprétation, le temps long de l'amour, pas de la passion, de l'amour et le temps long du pouvoir. Et là je trouve qu'il y a quelque chose qui se rejoint, et c'est la générosité, c'est l'amour oblatif, et c'est sublime.
Avant de poursuivre notre enquête sur Racine lui-même, tel qu'il apparaît notamment dans votre livre, Nathalie Azoulay, je voudrais faire un détour par celui que vous venez de publier, Jean-Michel de la Comté. Adieu Montaigne.
Oui.
Parce que c'est un livre très intéressant, un hommage à Montaigne dont tout le monde parle et que plus personne n'étudie. Vous voyez, quelque chose de l'humanisme est en train de disparaître, dites-vous, mais vous racontez que Montaigne vous a aidé vous-même à surmonter un chagrin d'amour.
Tout à fait.
Donc vous êtes trouvé dans la situation.
Absolument.
Un peu de absolument. La narratrice.
Absolument.
Et donc, il vous a mis du baume au cœur.
Oui.
On ne peut pas dire que Racine mette du baume au cœur, mais je trouve que c'est une autre forme de consolation que celle... C'est une sorte de consolation par l'exactitude. Tout d'un coup, les mots de l'amour, de la douleur, de la passion, de la non-réciprocité sonnent juste. Et à certains moments, c'est de cela dont on a besoin. Montaigne, pour vous, c'est un peu autre chose. C'est celui qui va vous expliquer que, voilà, il faut savoir se défaire de la jalousie. C'est un savoir-vivre. Racine, c'est plutôt une lucidité.
Oui, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et je comprends parfaitement bien qu'en lisant Racine, on mette, comme vous le dites, avec exactitude. Je le comprends parfaitement bien, naturellement. Après, c'est une question de sensibilité personnelle à tel ou tel aspect de l'existence, hein, tout simplement, ou tel aspect
parce qu'il y a
de
aussi,
la mort, bien sûr.
Il y a aussi Andromaque. Andromaque, c'est la non-réciprocité par excellence. Hein. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, laquelle... et se consume dans la perte d'Hector, mais il y a aussi ces vers dans Andromaque absolument extraordinaires. Elle parle à Pyrrhus, vous ne répondez point, perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu perds avec moi, ton cœur impatient de revoir ta Troyenne ne souffre qu'à regret qu'une autre t'entretienne. Il y a des moments de la vie qui sont captés par Racine, qui sont absolument géniaux. Mais Nathalie Azoulay, je reviens à votre livre. Pourquoi, à partir de cette souffrance, la narratrice cherche-t-elle à en savoir plus sur la vie d'un auteur qui, justement, s'est passé dans un univers tout à fait différent, qui n'était plus celui de la passion? Racine, c'était à la fois ce grand tragédien et un courtisan... est perdu. D'où vient cet enchaînement chez la narratrice, donc chez vous un peu, enfin je sais pas.
Chez la narratrice.
Alors disons la narratrice.
Chez la narratrice, alors en fait, quand elle commence à parler de ce chagrin dans son environnement proche, les banalités qu'elle reçoit en échange et que tout le monde peut émettre, hein, puisque un chagrin d'amour c'est à la fois énorme et très banal, ces banalités ne parviennent pas du tout à la consoler. Et un jour survient, au milieu de tous ces échanges, une citation de Racine, d'ailleurs erronée, mais qui lui fait tendre l'oreille et qui lui fait comprendre qu'il y a peut-être une autre façon de parler de l'amour que de manière banale. Donc elle va lire, relire les pièces de Racine. Et en fait, à la fois, elle tend l'oreille et elle n'entend pas. Et j'insiste là-dessus, parce que je vous rejoins, Jean-Michel Delaconté, je pense qu'il est très difficile d'entendre Racine aujourd'hui. Et je pense que vous et moi, Alain, nous sommes un peu peut-être des monstres. C'est-à-dire qu'en fait, comme Spitzer le disait dès les années 30, en fait, il disait...
Des survivants, peut-être.
Il y a un tiers des gens qui vont à la Comédie Française qui peuvent entendre et être saisis par le texte de Racine, mais il y a les deux tiers qui passent à côté. Et c'est facile de passer à côté. Donc c'est vrai que cette narratrice, elle entend et elle n'entend pas. Et il y a cet effet de sourdine que Spitzer a très bien théorisé et illustré, qui lui saute aux yeux, en fait, quand elle débarque dans l'univers de Racine. Donc, évidemment, comme il y a à la fois cette justesse qui la touche, cette émotion qu'elle perçoit, et en même temps cette opacité à laquelle elle se confronte, elle a envie d'en savoir plus.
Voilà.
Elle saisit d'emblée une espèce de contradiction. Et c'est en enquêtant sur la vie de Racine et sur ses propres contradictions, parce qu'il est pétri de contradictions de l'enfance à la maturité, qu'elle va essayer de comprendre comment un homme pareil, c'est-à-dire si loin d'elle, si loin a priori de toute ingénuité, de toute innocence et de tout romantisme, puisque c'est quelqu'un qui trace une carrière, qui est très ambitieux, qui en paye le prix et qui veut arriver là où il arrive. Donc c'est en essayant de voir comment au sein de cette ambition et de cette carrière se sont glissés sans doute mille et une fractures, mille et un frottements, comment cette contradiction s'est déroulée, s'est déployée, et comment dans cette espèce de parcours comme ça, de bulldozer, il y a eu des lignes de fracture, des fragilités, et cette double allégeance qu'on sent très vite chez Racine entre la fidélité qu'il doit à Port-Royal...
Voilà.
Et l'amour du roi.
Oui, bien sûr, c'est ça. S'il y a contradiction, elle est là. Une fidélité qui ne cessera jamais. Hein, c'est même Moria qui le dit. Le culte d'adoration que Racine voue à Louis XIV n'est limité par rien, sauf par Port-Royal. Sur ce point-là seulement, et non pas une fois, mais à chaque instant et jusqu'à la fin, il tient tête, il se compromet. Donc voilà, mais nous sortons là, évidemment, de l'univers de ces tragédies, de l'univers de la passion. Mais en même temps, il y a, dites-vous, Jean-Michel de la Comté, un lien entre la vie de Racine et l'histoire que narre Bérénice, puisque vous dites, Racine a abandonné le théâtre pour la même raison que Titus quitte l'arène. En renonçant à la tragédie après Phèdre, Racine renonce à l'amour, prend femme, fait 7 enfants, devient l'un des importants du régime. Titus renvoyait Bérénice pour épouser l'État. Racine se sépare du théâtre et des comédiennes pour devenir le chantre du roi. Il épouse une femme qui n'a jamais entendu parler du théâtre et qui ne veut pas en entendre parler, en plus. Jean-Michel Bergonté.
Oui, parce que ce qui d'ailleurs, vous le posez dans votre, c'est une question extrêmement intéressante que vous posez dans votre livre, c'est le lien qui existe et qui n'a rien d'évident entre ce que la sensibilité d'un auteur ce qu'il écrit. C'est-à-dire que moi, je suis de ceux qui pensent que Racine était, j'ai peut-être tort, n'était pas un homme particulièrement passionné. Ce qui le passionnait, je crois, c'était la majesté, c'était en effet tout ce qui...
Mais il avait une passion pour le roi.
C'est ça, exactement. C'est ça, c'est la passion du roi. Oui. La passion des femmes, j'en suis moins sûr.
Dans mon livre... Mais la Dupart.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et elle est morte. Elle est morte en...
Bien sûr.
Alors qu'elle essayait de se faire avorter.
Oui, non mais je dis pas que c'est pas touchant. Certes. Mais enfin bon, c'est assez commun.
C'est un peu tragique aussi, quand même.
Oui, bien sûr.
Mais...
Moi, je suis monténiste, alors je vois tout ça d'un certain point de vue, une conception. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un film que le témoin, nous étions des hommes. Etc. Moi, j'ai une conception de ce point de vue-là, non pas du tout macho, mais un peu viril des choses, quoi. C'est-à-dire, je serais assez du côté de Montaigne plus que du côté de Racine.
Ah oui. Vous voyez. Là, nous nous retrouvons.
Hein, là, vous êtes ensemble. Là,
c'est moi. Donc, voilà. C'est l'opposition homme-femme ne tient pas.
Voilà, tout à fait. J'en reviens à ce que j'évoquais à l'instant rapidement. Le lien qui existe entre la vie d'un auteur, la vie et l'œuvre. Pour aller vite. C'est une vraie question patiente que vous soulevez d'une façon très intéressante d'ailleurs dans votre livre. Moi je pense c'est une question qui reste ouverte. Voilà. Donc je crois que effectivement Racine était fondamentalement un courtisan. C'était son métier, ce n'était pas un artiste au sens romantique du terme, mais un artisan, un géomètre, un ingénieur de la langue. On pourrait en toucher un mot, d'ailleurs. C'est un homme qui composait... Non, mais c'est bien que vous ne soyez pas d'accord, mais c'est un homme qui composait admirablement, et je ne sais plus où j'ai lu ça, je crois que c'est son fils qui le dit, en gros. Une fois qu'il avait composé sa pièce, il remplissait avec des vers. C'est peut-être excessif, mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, ma tragédie est faite, il ne me reste plus qu'à l'écrire.
Voilà, exactement.
Célèbre.
Il passait par l'argument, et après il versifiait.
Et il usinait. C'est normal,
il faut produire la quantité aussi.
Non, mais bien sûr. Mais c'est pas du tout, vous voyez, une vision romantique des choses. C'est un artisan. Ce n'est pas l'artiste dans la vision qu'on en a aujourd'hui. Quelque chose, une inspiration qui tombe du ciel. Et puis, non.
Mais on sait bien que l'artiste n'est pas seulement inspiré.
Mais en même temps, il touche juste.
Oui, mais bien sûr.
Incroyablement juste.
C'est ça qui est intéressant. Ce qui vient du cerveau ou ce qui vient des nerfs, si je puis dire. C'est toute la question. Vous l'abordez, cette question? C'est très intéressant.
Nathalie Azoulay, vous êtes d'accord avec cette vision?
Alors, je suis d'accord pour dire que le roman pose la question du rapport entre la vie et l'œuvre. Et c'est vrai que cette narratrice s'interroge sans arrêt. Donc, elle émet des hypothèses, elle va chercher du côté de Didon, qui est prise à la fois entre l'émotion et la transgression. Donc, elle est obligée de formuler des hypothèses, puisqu'elle ne trouve pas dans la biographie elle-même de quoi nourrir ce rapport et cette espèce de porosité entre les deux.
Mais alors, justement, c'est une question qui s'est posée très tôt, le rapport entre la vie et l'œuvre. Pour ce qui concerne Racine, s'il y avait cette espèce de talent extraordinaire pour saisir toutes les facettes de la passion, pour dire la douleur de l'être abandonné, délaissé, qu'il s'agisse d'Hermione ou de Bérénice. Et il y a un dialogue dont vous vous souvenez peut-être dans Le Neveu de Rimbaud. « Moi, dit Racine, celui-là certes avait du génie, et ne passait pas pour un trop bon homme. » D'où la question que pose Diderot au neveu de Rameau. « Lequel des deux préféreriez-vous ? Ou qu'il ait été un bon homme,
faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, il l'a fait cela étant, bon mari, bon père, bon oncle, bon voisin, honnête commerçant, mais rien de plus, ou qu'il ait été fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant, mais auteur d'Andromaque, de Britannicus, d'Iphigénie, d'Athalie. Donc il avait quand même très mauvaise réputation, ce Racine. Il était tout cela à la fois. Boileau lui attribuait un tempérament railleur, inquiet, jaloux et voluptueux. Donc c'est un peu ça aussi que découvre, à sa grande surprise, votre narratrice. Il n'est pas tout à fait à l'image de ses pièces.
Non, certes, c'est vrai qu'elle découvre ça, mais je ne dirais pas qu'elle accorde beaucoup d'importance à cette découverte. En revanche, il y a une découverte à laquelle elle accorde beaucoup d'importance, et moi aussi, pour le coup, je me fonds avec elle. C'est que Racine, malgré le fait qu'il écrive dans un code, dans des conventions, et qu'il soit l'artisan de ses pièces, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose chez lui qui échappe à la convention. C'est là où on sent que l'art dépasse l'artisanat. Et c'est-à-dire que dans des pièces comme Bérénice ou d'autres, tout d'un coup, il y a un vers qui arrive et qu'on n'a pas vu venir. À la fois parce qu'il est très simple, presque trivial, et d'ailleurs on le lui a reproché. On lui a dit qu'il écrivait de temps en temps comme dans une comédie bourgeoise. Mais aussi parce qu'il prend des libertés avec la langue et avec la syntaxe. Et ça aussi, oui, on le lui a reproché sans arrêt. Et cette liberté de création, d'invention poétique, pour moi, c'est la découverte fondamentale qu'elle fait aussi. Et c'est aussi une façon d'expliquer la bizarrerie de cette langue. Derrière la pompe tragique, il y a de temps en temps un vers qu'on ne comprend pas, qui est comme un pavé inégal sur lequel on achoppe.
C'est le génie dont vous parlez. Hein.
Comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous ? Bon, moi, c'est un vers sur lequel je bute sans arrêt. C'est-à-dire que le « nous » devient ce « me » et ce « vous » dans le vers qui suit. Mmh. Et on ne comprend plus. On a un pavé inégal sous les pieds.
Tout à fait.
Et sans arrêt, chez Racine, il y a ça. Ou alors cette langue qui a demeuré glacée dans sa bouche. Et alors, on lui dit « Mais pourquoi vous n'avez pas écrit ?»« Est demeuré glacée ?» C'était l'usage. Et non, il choisit des choses qui sont bizarres et qui donnent à cette langue une signature à la fois classique et autres.
C'est tout à fait vrai. À propos de la considération, de la compréhension de la passion, il m'est difficile de ne pas noter, en l'occurrence, vous parlez de la langue, vous avez raison, Racine est un immense lecteur, c'est assez actuel, du latin. Il apprend tout ça aussi par la lecture, notamment de Virgile, mais une lecture extrêmement profonde. C'est un homme de grande culture classique.
Voilà.
Hein, et il prend un certain nombre. Alors, on parle de modèle, il parle de modèle lui-même dans ses préfaces.
Il l'a été très tôt d'ailleurs, parce qu'il étudiait les classiques presque clandestinement lorsqu'il était à Port-Royal.
Absolument.
Ça,
il en est imprégné.
Très bien, votre narratrice.
Hein, il en est imprégné.
Il
de
le
ça.
Lisait et il faisait des traductions. Très jeune, absolument époustouflante.
Tout à fait.
Avec toujours cette économie de moyens qu'on retrouve dans ses pièces.
Avec cet art de la langue qui a tendance à être un peu trop souvent perdu aujourd'hui. C'est même assez dramatique, je trouve. Bon, ça, c'est une autre question que vous aborderez à un autre moment vous-même, peut-être, je ne sais pas, à l'infini quelque autre. Mais enfin, ce rapport à la langue de Racine et au latin, on ne peut pas le passer sous le silence complètement.
Et à toutes les langues.
Et à toutes les langues.
Les mortes et les vivantes.
Oui.
Parce qu'il fait bon usage de l'italien, de l'espagnol. Oui. Il va chercher dans toutes les langues qu'il connaît, en fait, de quoi nourrir son écriture.
Oui. Mmh. Je cite une nouvelle fois ces vers, parce qu'en effet, ils sont très beaux. Et ils donnent le tournis, hein, étant donné leur liberté avec la langue, avec la syntaxe. « Pour jamais, ah Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous ?»
Très bizarre.
C'est très bizarre.
Tout à fait.
Ce n'est pas correct, mais c'est mieux que si.
C'est mieux parce que c'est par le vers, en fait, qu'ils les séparent.
Tout à fait.
C'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont chacun sur une rive.
Absolument.
Mais je crois que, donc, quand on se retrouve à la Comédie Française ou ailleurs à écouter et à ne pas entendre complètement cette langue, de temps en temps, il y a un vers comme ça qui vous fait glisser, qui vous sort de votre torpeur d'auditeur ou de spectateur et qui vous ramène à une émotion fondamentale, en fait.
Je suis d'accord.
Mais comment expliquez-vous l'un et l'autre, puisque vous avez réfléchi, vous avez étudié Racine, qu'il ait pu, en effet, cesser d'écrire, il reviendra à l'écriture de pièces pour Esther et Athalie, à la commande de Madame de Maintenon, et qu'il soit devenu l'historiographe du roi, dans une situation où aucune distance critique ne lui était permise. Historiographe voulait dire hagiographe. Que s'est-il passé pour que Racine fasse un choix pareil ? Jean-Michel Vacanté.
Selon moi et de
quelle est votre hypothèse ?
L'hypothèse, enfin, je la partage avec d'autres connaisseurs de Racine et de l'époque, c'est-à-dire c'est son métier de courtisan qui est beaucoup plus important. Comme si le théâtre a été pour lui une sorte de moyen d'atteindre une situation sociale, qui cette situation sociale devient, il y a l'anoblissement, il y a tout ça. C'est un parcours professionnel.
C'est un parcours du combattant. Même.
Absolument.
Dans une société hiérarchique.
Exactement.
Il faut ça.
Il faut ça. C'est pour ça que moi, dans ce livre-là, sur Racine, que j'écris il y a pas mal de temps maintenant, mais que j'aimais bien, c'est une très belle lecture. Je parle pas du livre, je parle de Racine. C'est un très grand plaisir, naturellement. Je souligne cette dimension qu'il a, que je trouve, moi, émouvante. Peut-être parce que je suis père de famille moi-même. C'est un bon père de famille, Racine. C'est aussi ça. Et sa correspondance dans ses rapports avec son fils, moi je trouve ça extraordinaire, quoi. Je trouve ça émouvant. C'est un monsieur tout le monde, un peu de ce côté-là, mais très très simple dans sa vie de famille et très soucieux de laisser un héritage culturel et financier à ses enfants. Je trouve ça assez émouvant.
Oui, je partage assez cette opinion. Moi, je dirais que à travers ce roman, j'ai émis deux autres hypothèses à ce tournant et à ce virage qu'il prend. D'abord que en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, je crois qu'il y a un moment donné où on a envie de passer à l'action et que l'historiographie, être historiographe du roi, c'est partir avec le roi sur les fronts et sur les territoires et partager avec le roi, donc cette espèce d'idole absolue pour Racine,
le royaume. C'était une forme d'amour quand même.
C'était une forme d'amour, d'accompagnement et de partage du royaume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que chez Racine, il y a l'idée que au roi les batailles et le pouvoir... à lui la façon de le dire en fait et la façon de le graver dans le marbre et donc dans cette dans ce tournant de carrière je dirais il y a sans doute le désir de passer à autre chose mais ça n'enlève rien à ce que vous dites à savoir en effet qu'il veille au grain pour sa progéniture
il veille au grain
et cet amour du roi le conduira d'ailleurs à une intimité qu'on n'imagine pas c'est-à-dire à un moment donné ce sentiment sera réciproque et il couchera dans la chambre du roi. Parce que le roi a des insomnies, le roi a besoin de Racine pour lui faire la lecture. En effet, Racine était un grand tragédien, mais aussi un lecteur grand exceptionnel. Lecteur. Et donc, il était là, à la merci, si j'ose dire, des insomnies du roi. Il lui faisait la lecture quand celui-ci en avait envie. Et vous citez La Bruyère dans votre livre, Jean-Michel de la Comté, qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité du courtisan, qu'il s'occupe et se remplit pendant toute sa vie de le voir et d'en être vu, comprendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints.
Absolument.
Là, on en vient à la contradiction dont vous avez parlé, Nathalie Azoulay. Il y a cette fidélité à Port-Royal. Il a été élevé à Port-Royal, il a suivi l'éducation des maîtres de Port-Royal. Il a été dénoncé par Nicole comme un impassionneur public. Il a répondu d'ailleurs très vertement alors qu'il devenait un auteur de théâtre. Mais n'empêche, sa fidélité ne s'est jamais démentie. Il a écrit une histoire de Port-Royal et c'est, je crois, vous me détromperez si j'ai tort, pour cette raison qu'il a été à un moment donné rejeté par le roi, qu'il a subi les foudres de sa majesté. Si
c'est vrai que Louis XIV avait du mal à supporter la proximité que Racine entretenait avec Port-Royal et lors de ses déplacements, parce qu'il en a fait quelques-uns encore, même tard, quand il est devenu historiographe. Donc Louis XIV le lui reprochait très régulièrement. Et il faut aussi rappeler l'entourage de Madame de Maintenon, qui était très jésuite, et qui détestait évidemment tous les jansénistes de Port-Royal. Mais c'est vrai, et dans le roman, moi je le romance évidemment cet attachement, il y a des personnages qu'il n'a jamais quittés, je dirais de manière spirituelle, comme ce Jean Hamon qui a participé à son éducation dès les premières années, ou comme ses maîtres d'après, dont Pierre Nicole, malgré les dénonciations, qu'il continue à admirer jusque très tard. Et c'est lui qui émet la volonté d'être enterré là-bas.
Oui, c'est ça. Et en même temps, on lui a reproché de vouer une adoration illimitée au roi, de chanter sa gloire dans les termes les plus enthousiastes, les plus dithyrambiques. Mais Mauriac, dans sa vie de Jean Racine, rappelle ces vers tout à fait extraordinaires d'Athalie, c'est le grand prêtre qui s'adresse à celui qui allait devenir roi, Joad. De l'absolu pouvoir, vous ignorez l'ivresse, et des lâches flatteurs, la voix enchanteresse. Bientôt, ils vous diront que les plus saintes lois, maîtresses du vil peuple, obéissent au roi, qu'un roi n'a d'autre frein que sa volonté même, qu'il doit immoler tout à sa grandeur suprême, qu'aux larmes, au travail, le peuple est condamné, et d'un sceptre de fer veut être gouverné. Il y a là quand même une critique implicite de Louis XIV dans une pièce commandée par Madame de Maintenon.
Oui.
Non, vous ne diriez pas ça,
Jean-Michel? À moins de prendre le contraire. C'est-à-dire que de considérer, comme d'ailleurs dans Bérénice, que l'essentiel, c'est le bien public. C'est-à-dire que Titus sacrifie Bérénice au bien public. Et là, je pense que c'est un éloge indirect de Louis XIV qui est considéré comme le roi qui, justement, se refusant à opprimer ses sujets, se consacre au bien public. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur, avec Marie Mancini. Et là, je pense que c'est une contestation d'un type de pouvoir que plus tard d'autres diront de type asiatique, c'est-à-dire le tyran, qui justement n'est pas le cas, selon moi, de Louis XIV, justement.
C'est bien ce qui lui est reproché aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, bien sûr. Mais je ne crois pas du tout que Racine se soit dit Louis XIV est un tyran, pas du tout. Ou est un roi oppresseur, pas du tout. Je pense au contraire que lorsque Racine dit, je crois du moins, que lorsque Racine de Louis XIV, que c'est un grand roi, parce que la valeur de la grandeur que nous avons complètement perdu aujourd'hui, ça veut dire encore quelque chose. La gloire que vous évoquiez tout à l'heure voulait dire encore quelque chose. Pas seulement la gloire des armes, hélas, il y a ça, mais c'est aussi la gloire d'un certain type de gouvernement et de rapport au bien public. Voilà, et je crois que Racine aime ça aussi. Ou défend ça, ou célèbre ça aussi, chez Louis XIV, me semble-t-il.
Alors ce que dit Mauriac, pour commenter les vers qu'il cite, « Aux approches de la Révolution, ces vers étaient interrompus par des applaudissements, et sous l'Empire, Fouché menaça d'interrompre les représentations de la pièce. » Et ça, c'est Mauriac qui parle, et là, vous êtes en désaccord, Jean-Michel de la Comté. « Il est impossible que Louis XIV n'ait pas le premier dressé l'oreille, d'autant qu'il savait que son historiographe avait parti lié avec les jansénistes. »
Oui, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant.
Et je dirais que comme Attali arrive très tard dans la vie de Racine, il y a peut-être quand même chez lui un doute qui affleure.
C'est possible, on peut le penser en tout cas.
Quelles ont été donc les dernières années de Racine? Justement, que s'est-il passé dans sa vie, ce moment où il n'était plus tout à fait, il n'avait plus les faveurs du roi. Comment a-t-il vécu?
Moi, j'ai pas très bien compris cette histoire de disgrâce dont on parle souvent et qui d'ailleurs n'est pas très claire. On ne sait pas très bien s'il y a eu ou pas disgrâce. Il y a sans doute eu un éloignement, une distance. Je pense que chez Racine, ça a éteint quelque chose. Il y a un feu qui s'est éteint et sans doute une vitalité qui en a pris un coup. Je ne peux pas dire grand-chose de plus.
Il était malade aussi.
Mais il y avait quand même ses 7 enfants qui le réjouissaient, dont il s'occupait.
Oui,
mais
il
je ne peux pas dire grand-chose de plus.
Et que diriez-vous? Parce que votre livre, Jean-Michel Jacobé, s'intitule « Racine en majesté ». Donc c'est quand même cette question-là, par excellence, que vous étudiez.
Oui.
Le majestueux Racine, mais aussi le rapport de Racine et du roi.
Et au combien?
L'ambition de Racine et son parcours du combattant. Alors, il s'est terminé comment, ce parcours?
Je crois qu'il s'est terminé d'une façon d'ailleurs très familiale, encore une fois, dans le souci de la famille. Et puis, je crois qu'il s'est terminé assez tristement. Enfin, ça a dû être difficile pour lui. On le voit très bien pourquoi il s'est fait enterrer au pied de Jean Hamon. C'est quand même un retour aux sources, à une sorte d'authenticité d'une foi qui a été mise entre parenthèses, j'imagine. Et finalement, il retourne à ce qui est essentiel, au seuil de la mort. Et a fortiori, une fois qu'il est mort, lorsqu'il s'est fait enterrer.
Oui, c'est un peu d'ailleurs ce dont Mauriac lui fait gloire, ce retour à la foi. Il veut, je crois, élever ses enfants dans une foi très rigoureuse.
C'est un homme de foi, Racine.
Les éloigner même des tentations qui ont pu être les siennes,
y compris ses
aussi
filles,
bien esthétiques que voluptueuses.
Surtout ses filles.
Surtout ses filles. Oui, la plupart de ses filles, je crois. Enfin, parce qu'il a eu combien? 7 enfants, non?
Oui.
2 fils et 5 filles.
2 fils et 5 filles, et 4 de ses filles ont pris le voile.
Oui.
Hein, et la 5e est restée célibataire.
C'est un homme de grande piété. Mais attendez, est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut avoir cet amour de la majesté à l'époque, hein, j'entends, sans une piété, quand même, regardez Bossuet, puisqu'on a eu l'occasion, etc. Je veux dire, il est habité par l'idée de Dieu, ça me semble évident. Ce qui a dû le rendre, le torturer parfois, parce que le théâtre profane, il le condamne lorsqu'il écrit à Taliester, qui sont des pièces sacrées, ça le soulage sans doute. Enfin, j'imagine, hein, par rapport au...
Il doit rembourser un petit peu une
voilà,
dette.
Voilà, exactement ça, absolument.
Vous diriez ça aussi.
Oui, moi, je suis d'accord.
Moi, j'imagine, on n'a aucun écrit, malheureusement, très intime de Racine, et le peu de correspondance qu'on a été expurgé, etc., par ses descendants. Donc, on a très peu de traces, mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu de tiraillement douloureux chez cet homme.
Tout à fait.
Quand on vit dans une telle double allégeance, dans un tel écartèlement... Il doit forcément y avoir de la souffrance et
Oui, et en même temps, quand vous citez La Bruyère, Jean-Michel Lacanté, il y a quand même quelque chose de sacrilège que La Bruyère montre très bien, parce que il idolâtre le roi.
Bien sûr.
C'est une forme pour cet homme dont vous dites qu'il est très pieux. D'un côté, il y a eu le théâtre profane auquel j'ai du mal à penser qu'il est complètement renoncé, ou j'ai du mal à penser qu'il est répudié en quelque sorte. Mais en plus, s'il idolâtre le roi, c'est au détriment quand même de la figure divine, non ?
On lui a reproché.
Écoutez, je crois que ça fait partie des contradictions de tout à l'heure.
Ah oui, c'est
ça. Pas
c'est les contradictions des personnages.
Bah, bien sûr.
Oui. Nathalie Azoulay, je ne sais pas si c'est à votre narratrice que je parle ou à vous-même. Aux deux, en l'occurrence, ma question c'est quelle est la tragédie de Racine que vous aimez le plus, celle qui vous comble. Ce n'est pas un théâtre consolant, Racine, puisque c'est comme le dit Barthes, hein, précisément, le théâtre de l'aliénation amoureuse. L'amour est d'abord une aliénation. Le constat d'une impuissance et d'une dépendance. Mais justement, y a-t-il une pièce que vous aimez mieux que les autres, ou bien est-ce... La symphonie racinienne.
Je suis sensible à l'ensemble de l'œuvre, mais je dois dire quand même que Bérénice est ma préférée.
Ah, ça reste votre préférée.
Sans
en
doute,
dépit.
En dépit. En dépit.
Du ressort tragique que vous cassez.
Mais oui, parce que je trouve que nulle part comme dans Bérénice, il n'a réussi à déployer cette tristesse majestueuse qui est la signature de cette œuvre, c'est-à-dire ce lamento qui, malgré quelques fleurs de temps en temps, quelques galanteries, reste quand même très contenu. Très en retenue, très sobre, et avec, encore une fois, ce mélange des genres dont on ne parle pas assez quand on parle de Racine, mais ce soudain passage d'une pompe à une trivialité, à une simplicité qui fait le sublime.
Si vous me permettez une remarque...
Jean-Michel de Lacanté.
Par rapport à ce que vous dites, je comprends parfaitement bien et je suis largement d'accord avec ce que vous dites. Je voudrais quand même souligner, parce que c'est quand même pas secondaire, que, comme il le dit lui-même, il parle de rien, il fait une pièce sur rien. Ça tient à quoi ? Ça tient à la composition, et ça tient, parce qu'on a très peu parlé quand même, à la langue, quand même.
Alors on n'en a pas parlé, mais on a cité.
Oui, on a cité, mais je veux dire...
C'était quand même un hommage à la langue, et on a parlé
de... Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est la chair même de cette pièce, au-delà des sentiments, et de c'est la langue même, cette tenue extraordinaire qui par elle-même est émouvante et parfois même bouleversante, et qui est un peu perdue aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Ce souci de la langue, ce souci du style, ce souci-là.
Bien sûr.
Et votre livre, vous, et je le dis sincèrement, rend compte de cet amour, de ce souci de la chair de la langue. Moi, j'ai apprécié ça, je le dis très franchement. C'est pas si fréquent.
Non, mais simplement un mot, une pièce sur rien, qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Parce que c'est pas tout à fait, le nouveau roman a dit des choses. Il y a quand même un vrai sujet. Sauf que, en effet, il n'y a pas de mort. Il n'y a d'événement que celui que provoquent les deux personnages. C'est, ils s'aiment, ils sont heureux, et ça bascule en dépit de cette réciprocité amoureuse. Enfin,
on en revient au début.
Oui, mais ça bascule dans la tragédie, et c'est une tragédie non sanglante. C'est peut-être aussi ça que ça veut dire une pièce sur un. Voilà. Et il le dit d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de mort pour faire une tragédie.
Oui, mais il est seul à dire ça. Il est seul à le dire.
C'est contre Corneille aussi, hein. C'est contre un certain type de théâtre.
Bien sûr.
Mais vous avez tout à fait raison. C'est pas de péripéties.
Voilà.
Hein. C'est la densité même du propos et bien sûr la qualité extraordinaire de cette langue qui soutient tout ça.
Bien sûr, mais c'est en ça qu'il est toujours très moderne et en fait à l'époque très isolé puisque On lui reproche de ne pas mettre assez de bataille, de ne pas mettre assez de sang sur scène et de ne pas mettre assez d'action finalement. Et que cette action qui est la décision de Titus et l'annonce de cette décision est vraiment très mince. C'est pour ça que Rimbaud dit de lui qu'il est le pur, qu'il est le grand. Ouais. Et je pense que la modernité de Racine doit encore être dite et redite.
Vous avez la plus belle réponse à cette traduction moderne qu'on pourrait faire de l'idée d'une pièce sur rien. Vous dites très simplement dans votre livre, une séparation, ce n'est pas rien. C'est quand même une pièce sur la séparation. Et la séparation, c'est tout, en quelque sorte.
Ce n'est pas rien pour nous autres modernes. C'était rien au regard du code tragique du XVIIe siècle.
Mais c'était quand même quelque chose pour les premiers spectateurs de la pièce, malgré tout.
C'est un certain sens du bonheur, déjà, qui est derrière. Hein.
Oui.
C'est vrai.
Oui, et un sens du bonheur très paradoxal chez Racine, puisque il n'y avait, avant cette pièce, de passion, d'amour que malheureux.
Oui.
Là, l'amour est malheureux, absolument, mais peut-être pour d'autres raisons, parce que une autre considération, une autre intensité entre en ligne de compte, mais là, ils auraient pu s'aimer.
C'est et le
là
vrai
où
amour.
Je vous suis, c'est que s'ils étaient restés ensemble, tout laisse à penser qu'ils se seraient aimés toujours.
Absolument, moi c'est moi.
Ça, vous n'y croyez pas.
En fait, vous êtes beaucoup plus romantique que moi.
C'est possible.
Non, c'est pas forcément romantique, mais ça vous pensez que c'est...
J'y crois pas une seconde.
Vous n'y croyez pas une seconde,
mais
ça c'est
vous.
Je
pense que s'il y a un amour, c'est peut-être
Azoulay,
Antiochus pour Bérénice, mais Titus et Bérénice,
Titus,
je crois pas beaucoup.
Titus, non, il aurait... Ça y est, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait eu des maîtresses.
Il aurait recommencé. Il a montré dans sa jeunesse qu'il aimait la variété.
Il était amoureux pendant 5 ans quand même. Et c'est là-dessus qu'elle s'est fondée, Bérénice, pour espérer.
5 ans, c'était son maximum.
Attendez, vous êtes dur. Il est devenu empereur, le pauvre homme.
C'est la maxime de La Rochefoucauld. Il y a de bons mariages, il n'y en a pas de délicieux.
Comme dirait encore La Rochefoucauld, ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute du temps.
La vie aussi. L'humanité, si vous voulez, est faite d'exceptions. C'est ce que dit Hannah Arendt. Hein. Nous sommes tous semblables et nous sommes tous des exceptions. Donc il doit bien avoir des exceptions, même aux maximes de La Rochefoucauld.
Espérons-le. Hein.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel de la Comté. Merci Nathalie Azoulay. Alors, votre livre, Nathalie Azoulay, est publié aux éditions POL et il a ce titre dont nous avons longuement discuté, Titus n'aimait pas Bérénice. Jean-Michel de la Comté, vous avez publié Naguère chez Flammarion, Racine en majesté, et vous publiez aujourd'hui un livre dont nous avons aussi parlé, car il est pour vous une référence en matière amoureuse, peut-être
différente,
plus pertinente que...
Différente,
dirons-nous, de Racine, Adieu Montaigne, et ce livre est publié aux éditions Fayard. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site replique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Raconter la France ». Mes invités seront Florence Aubenas et Philippe Lançon. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Péric Charles. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, Actualité d'Ernest Renan, avec Philippe Barret.